Chapitre 8. Toutes les filles de la maison de son père. Parmi les maux les plus difficiles à supporter dans le long catalogue des douleurs auxquelles les affections humaines nous soumettent, on doit certainement compter celui de voir souffrir un être bien-aimé, soit dans son corps, soit dans son esprit, quand on n'a pas le pouvoir d'alléger sa souffrance. Pour beaucoup d'hommes, et cela d'autant plus que le cœur est plus sensible, il est plus pénible de rester impuissant auprès d'un lit de souffrance que d'affronter une batterie de canons ou les éléments déchaînés. Et si le spectacle des maladies corporelles est cruel à voir, celui des maladies de l'âme est encore bien plus affligeant. La femme, bien supérieure à l'homme en pareil cas, devient l'ange consolateur et trouve le courage de veiller sur celui qui souffre et qu'elle aime, dût-elle n'être payée de ses soins que par les violences du délire ou des plaintes amères. La femme, lors même que rien autre chose ne plaiderait en sa faveur au jour du jugement, mériterait pour cela seul la couronne de l'amour. L'homme se contentera de la couronne de la force. Helena Landless comprenait trop bien que les circonstances l'avaient placée dans une position délicate, peu en rapport avec sa jeunesse et son inexpérience. Elle ne se dissimulait pas combien sa tâche serait difficile pour rendre à son frère l'espérance et la force qui semblaient l'avoir abandonnée. La jeune fille, si peu de temps auparavant libre de tout souci, si ce n'est des souvenirs de son enfance malheureuse, pensait que le fardeau qu'elle portait était pourtant assez lourd. N'avait-elle pas à cacher dans son sein les regrets d'une veuve, sans avoir été mariée ni même aimée? Elle devait maintenant à ce fardeau ajouter le terrible devoir auquel elle s'était consacrée par droiture de conscience, le devoir de venger l'homme qu'elle avait aimé et de protéger le frère calomnié et menacé qui lui était cher, et il lui fallait encore combattre la maladie morale qui écrasait ce pauvre Neville. Elle devait intervertir les rôles de la nature afin de le protéger. Car Neville Landless, à cette époque, était brisé, en dépit des efforts de M. Grudgers et de M. Crisparkle, pour éviter ce résultat fatal des accusations lancées contre lui, en dépit du dévouement infatigable d'Héléna, qui semblait subordonner toutes ses pensées et tous ses désirs à la volonté de son frère. Son irascibilité constitutionnelle l'emportait désormais sur la tristesse et le découragement qui avaient suivi son arrestation. Il continuait avec une assiduité presque machinale le cours des études que lui avait indiqué le chanoine et que surveillait l'avocat. Aussi ne produisait-elle qu'un effet médiocre sur son esprit. Il avait la même répugnance invincible à sortir en plein jour, même quand il n'y avait aucune probabilité de rencontrer des gens qu'il eussent connus autrefois, en sorte qu'il ne quittait sa mansarde que le soir, cédant en cela aux sollicitations pressantes de sa sœur. Il semblait s'y être réfugié comme un oiseau blessé. Il était sujet à de longs accès de silence bourru, pendant lesquels on ne pouvait lui arracher un mot, même à force de tendresse. Ces accès faisaient bientôt place à d'autres non moins terribles. Il se mettait à marcher dans sa petite chambre, le visage sombre, troublé, menaçant, se frappant les mains comme dans une explosion de rage impuissante. Tous ses mouvements ressemblaient alors à ceux d'un animal fauve en cage, dévoré d'une impatience indomptable de se voir captif et d'une égale crainte de la liberté. Qu'était devenue cette sympathie muette entre les jumeaux, dont le frère et la sœur s'étaient vantés dans les premiers jours de leur arrivée à Cloisterham, et dont la sincérité avait été affirmée par l'expérience? On voyait bien alors que leurs idées et leurs sensations s'échangeaient sans le secours des mots. Hélas, il faut dire la vérité sur cette affinité particulière. Il y a des conditions dans lesquelles les jumeaux ne conservent point cette communication intime de sentiments, et la première de ces conditions existait à présent entre Helena et son frère. Aucun autre lien plus cher, d'une nature différente, ne doit venir s'interposer entre les êtres joints par ce contrat avant la naissance, où tous les deux en sont aussitôt changés. Un obstacle de ce genre s'était élevé entre le frère et la sœur, car Helena Landless et son frère aimaient tous les deux. Ils aimaient, et les paroles sont impuissantes à exprimer combien tristes étaient leurs amours. La sœur avait conçu une passion pour un homme déjà fiancé et libre seulement quelques heures avant d'être frappé à mort. Le frère avait aimé une femme placée dans la même situation et à laquelle, après le meurtre de son fiancé, qu'il avait affranchi pourtant de toute obligation, il osait encore moins penser, encore moins demander un amour semblable au sien. Il était arrêté par la honte de l'accusation qui lui attribuait ce meurtre dans un accès de rage jalouse. Si l'amour pouvait naître entre eux, ne semblerait-il pas fouler la victime aux pieds avec une audace inouïe? Il n'était pas aisé de trouver deux êtres qui eussent échoué plus malheureusement dès leur premier essai de leur cœur que les deux habitants des petites mansardes de Seppelin. Quelles paroles pouvait trouver Helena pour réconforter son frère, découragé et inconsolable? N'y avait-il donc aucune probabilité de voir arriver un jour, même lointain encore, où elle aurait du moins la joie de lui montrer Rosa, remise de l'émotion que lui avait causée la mort d'Edwin Drood, débarrassée de ses terreurs au sujet de John Jasper, ne se souvenant plus de son malheureux engagement avec son fiancé que comme d'un épisode de sa vie de pensionnaire, apprenant à aimer Neville et devenant pour le jeune homme une consolatrice et une compagne bien meilleure qu'elle-même. Un instant, elle avait espéré pouvoir se servir de cette perspective pour exciter son frère à la patience. Que lui restait-il de toutes ses espérances passées? Il était arrivé ce dont se plaignent si souvent les pères et les mères qui, après avoir entouré une fille de toutes les tendresses, se voient abandonnée, presque sans l'avoir su et sans pouvoir l'empêcher, pour un étranger qu'elle aime. L'attentive sœur de Neville avait eu des soupçons d'abord, elle avait maintenant une certitude trop absolue, Tartare avait emporté le cœur de Rosa. Brun et doré comme un fruit des tropiques, Tartare était venu avec sa conversation si vive, son caractère énergique et enjoué. Il avait tout enlevé comme une de ces brises équatoriales dont elle connaissait le charme puissant. Il était venu et le cœur vide de Rosa s'était rempli tout à coup. Neville Landless n'avait plus aucune chance d'être heureux. L'obscurité de l'avenir avait enveloppé ce petit rayon de lumière entrevu par Helena. Il lui restait peu de moyens d'égayer et de fortifier son frère et il ne fallait rien moins qu'une Florence Nightingale pour demeurer près de ce lit imaginaire de douleur où gisait un cœur blessé. Tel était l'état de choses entre le jeune homme et sa sœur, dans le monde resserré où ils vivaient, quand ils rentrèrent un soir, assez tard, d'une promenade où l'infatigable Helena avait réussi à l'entraîner. Cette promenade s'était faite, non dans la direction d'Oxford et de Regent Street, mais dans le voisinage douteux de Soho ou des Seven Dials. Peut-être le pauvre garçon se sentait-il moins abattu au milieu des spectacles de la pauvreté et de la misère qu'au milieu du luxe et des jouissances présentés à sa vue dans les quartiers riches. Peut-être était-il conduit par des sentiers invisibles vers un but inconnu qui devait être la mission de sa vie, et ce but devait s'élever au-dessus des souffrances qui lui paraissaient aujourd'hui si cruelles, bien qu'envoyées par la Providence. Il avait été très silencieux pendant leur promenade. Quand ils furent rentrés, Helena essaya de l'amuser et de l'intéresser sans y réussir, et sa ténacité fit bientôt place à quelque chose d'aussi effrayant. Pendant un instant, il demeura assis d'un air de fatigue, la tête dans sa main, semblant ne plus voir la figure pleine de douce pitié qui s'approchait de la sienne. Puis un frisson rapide parcourut tous ses membres, il repoussa ses cheveux qui retombaient sur son front, se dressa en murmurant quelques mots qu'Helena trembla d'avoir reconnus pour une imprécation et commença à marcher à grands pas en fermant sa main de la même façon qui lui avait attiré une pression de M. Crisparkle bien des mois auparavant. Tous les éléments dangereux de cette nature indomptée se retrouvaient sur ses lèvres serrées, sur ce front contracté par une terrible colère. Neville, petit frère, qui t'agite d'une façon si affreuse? Pourquoi ne veux-tu pas me parler? Demanda enfin Helena.
Parce que je ne suis pas en état de parler ni à toi ni à personne, répondit-il,
et le son de sa voix faisait supposer qu'il parlait les dents serrées. « Parce que j'ai le meurtre dans le cœur et qu'il ne me manque que l'occasion pour prouver que ce qu'on a dit de pire sur moi était vrai. »« Neville, mon frère !» répéta sa sœur d'un ton mêlé d'alarme et de douleur. « Que veux-tu ? Que peux-tu vouloir dire ? Est-ce que tu es fatigué de moi ou est-ce moi que tu veux tuer ? Ah, que tu es devenu différent de toi-même ! Te tuer ? Non ! répondit-il, radouci pour un instant par cette question hardie. « Non, tu sais que je donnerais ma vie pour toi si j'en avais l'occasion. »« Mais comment sais-tu, continua-t-il en marchant toujours, les poings serrés, comment sais-tu que je deviens différent de moi-même ? Que dirais-tu si je devenais plutôt réellement moi-même ? Si je jetais de côté le masque et les déguisements qui m'ont enveloppé jusqu'ici, même à tes yeux ? Si je te montrais ce que je suis, tantôt un misérable imbécile à force de faiblesse et tantôt le diable incarné que je suis réellement. On m'a accusé d'être un assassin. Si on n'a pas mis sur mon front la marque de Caïn, on a fait tout ce qu'il fallait pour m'en faire sentir la flétrissure brûlante et parfois je me regarde au miroir. N'ai-je pas là vraiment une tâche ? Oh, Neville, Neville, mon frère ! Mais il ne l'écoutait pas et continuait sa promenade et ce torrent de mots insensés ne tarissait pas sur sa bouche. « Chut ! Ne m'interromps pas, car je sais ce que je dis mieux que toi. Que penserais-tu si on avait eu raison, après tout, de m'accuser ? Neville ! » Cette fois, l'exclamation n'était pas une expression d'alarme et d'anxiété. Il fallut à Helena un effort pour la prononcer et on l'entendit à peine, comme si ses lèvres eussent été glacées d'horreur. Elle la répéta en y ajoutant quelques mots qui arrêtèrent la promenade folle du jeune homme. « Neville, mon Dieu, que veux-tu dire ?» Il vit en se retournant l'expression épouvantée de ses yeux avec ce mélange d'indignation et de crainte qui peut si aisément se changer en haine. Il la vit serrer convulsivement le dossier de la chaise sur laquelle elle s'appuyait, elle qui, dans toute leur existence commune, n'avait jamais faibli, ne s'était jamais laissée émouvoir, de façon à n'être plus maîtresse d'elle-même. Les grands feux, dit-on, éteignent les petits. L'agonie de ce visage rappelant en un instant à lui-même ce jeune homme à demi-fou. Il la prit dans ses bras en lui disant « Helena, ma sœur, qu'est-ce ? Qu'ai-je fait ou qu'ai-je dit pour t'émouvoir si fort ? Que dirais-tu si l'on avait eu raison, après tout, de m'accuser ?» Elle répéta les paroles de son frère comme il les avait dites et avec la même voix éteinte. Ses lèvres semblaient réellement paralysées par quelque puissante réaction qui ne pouvait être que de l'horreur. Elle résista quand il essaya de la tirer à lui et c'était la première fois depuis qu'il pouvait prononcer les noms de frère, de sœur. « Helena, qu'y a-t-il donc ?» Elle ne répondit pas encore. Elle s'appuya contre le mur, ferma les yeux et essaya de penser, tandis que son frère, se doutant à demi comment il avait causé sa terreur, la regardait fixement. Qui avait-il en effet ? Simplement ceci, ni plus ni moins. Pendant un instant, Neville, proférant des paroles auxquelles il n'attachait aucun sens sérieux, aussi fou, aussi irresponsable qu'un fou, avait frappé la pauvre jeune fille au cœur en lui donnant la crainte qu'il ne fût vraiment le meurtrier d'Anne Widrood. Que personne ne s'écrie « impossible ». Il n'y a pas d'impossibilité pour la folie ou pour sa parente, l'imprudence téméraire. Ne croyez pas qu'il y ait au monde de caractère si pur, de place si élevée aux yeux du monde, d'amour si entier, dans des cœurs faits pour inspirer la plus absolue confiance, que le possesseur ne puisse perdre ou affaiblir par ses propres actions ou ses propres paroles. Si les pires ennemis d'un homme sont les gens de sa propre maison, de même les armes les plus dangereuses qu'il peut fournir contre lui sont souvent les mots qui sortent de ses lèvres. Et en quoi est-il incroyable que la sœur de Neville ait eu un moment de doute ? Quelle garantie de l'innocence de son frère avait-elle de plus que les autres ? La connaissance de ce qu'elle croyait être le fond de son cœur et ses propres paroles d'horreur et de dégoût à l'occasion du crime. mais il venait de prononcer d'autres paroles toutes différentes. Pourquoi ne serait-ce pas les vraies? Il venait de proclamer qu'il n'avait ni horreur ni dégoût, qu'il se sentait, pour employer ses propres expressions, le meurtre dans le cœur, que sa véritable nature n'était pas celle qu'on lui avait vue jusqu'alors, mais une nature pleine d'impulsions sauvages et sans mesure, que l'on avait eu raison peut-être après tout, en faisant retomber sur lui le sang de la victime. Cette terrible crainte ne pouvait être durable chez la sœur de Neville. Helena Landless, encore debout et résistant toujours à demi à l'étreinte de son frère, ouvrit les yeux qu'elle avait fermés devant ses horribles pensées et regarda le jeune homme en plein visage. Elle se rapprocha de lui, il demeurait silencieux et surpris. Elle mit ses deux mains sur ses épaules et essaya de lire dans ses yeux qu'elle avait appris à connaître depuis l'enfance. Sa terreur s'évanouit. Non, le frère qu'elle aimait pouvait être fou, mais il ne pouvait pas être, il n'était pas un assassin, même après les paroles accusatrices qu'il venait de laisser échapper. Non, elle lui avait fait un tort impardonnable par ce soupçon même passager. Certes, elle lui était dévouée auparavant. Elle pensa qu'elle devait l'être deux fois plus encore, après l'avoir soupçonnée d'une si épouvantable chose. Les beaux yeux bruns changèrent leur expression de doute et de peur en une expression nouvelle de tendresse inexprimable. Elle se serra contre Neville, l'embrassa tendrement et lui dit, avec une affection plus vive encore que jamais, « Pauvre cher frère, comme tu es devenu faible et nerveux, tu me causes presque de la frayeur quand tu as ces horribles accès. » Et lui, que ressentait-il? Que pensait-il de cette colère morbide à laquelle il avait cédé? Les maladies de l'esprit, plus que toutes les autres, demandent des remèdes violents. On a vu des fous revenir à la raison par des chocs qui auraient affolé des gens raisonnables. Neville Landless venait de recevoir un de ces chocs, qu'il eût lu ou non toute la vérité dans les yeux de sa sœur. Il l'avait effrayé et affligé d'une façon terrible, cela lui suffisait. Il avait failli pendant un instant perdre son amour, devenir un objet d'horreur et de méfiance. C'en était plus qu'il ne fallait pour le guérir et pour donner une forme à des résolutions de patience, jusque-là trop vagues et trop peu soutenues. « Pardonne-moi, petite sœur, comme tu m'as pardonné tant de fois, et j'essaierai de ne plus te faire de la peine par mes paroles sauvages et mes folles actions. » Il n'en put pas dire plus, il entoura de ses bras la taille flexible de sa sœur, puis quand la jeune fille se dégagea après quelques mots de tendresse, il se dirigea vers la fenêtre et se mit à contempler la nuit sereine, la laissant s'occuper de quelques détails domestiques avant de se retirer dans sa chambre. Il se retourna au bout d'un moment. Elle était sortie et sans lui dire bonsoir, chose extraordinaire. Il se remit à la fenêtre, examinant les toits sombres et les lumières éparpillées de la grande cité. Ce labyrinthe immense traversé de feux et d'ombres lui représenta sa propre vie. Mais il reconnaissait mieux que jamais la folie de l'homme qui, perdu dans ses replis menaçants, se contenterait de gémir sans faire aucun effort pour trouver son chemin, ou qui n'essaierait pas de se servir pour le guider de ces lumières dispersées et confuses. Puis il entendit un pas qu'il crut reconnaître pour celui de sa sœur. Elle revenait sans doute lui dire quelques mots. Il se retourna et aperçut un étranger, ou plutôt un intrus, car il devait être entré de vive force ou par surprise. Le verrou de la porte du vestibule était poussé. Il était mince et de taille moyenne, avec un beau visage et une expression intelligente. Il portait des vêtements noirs qui le désignaient comme occupant une position intermédiaire entre le gentleman et le jeune employé de commerce. Il n'avait pas eu la politesse, en entrant, d'ôter son chapeau à forme ronde et basse et qui offrait cette particularité d'être un peu haut placé sur sa tête, tandis que les cheveux qui en sortaient semblaient d'une épaisseur extraordinaire et formés comme un paquet. Tout bien considéré, c'était un de ces jeunes beaux garçons comme on en rencontre cent dans une promenade par les beaux quartiers de Londres et auprès duquel on serait passé sans le regarder deux fois, à moins d'être assez inoccupé pour donner une minute de réflexion à ce fait que de beaux yeux et une certaine grâce féminine ne sont pas en Angleterre l'apanage exclusif des femmes. Naturellement, Neville n'eut pas besoin d'y regarder à deux fois pour reconnaître sa sœur. Mais un étranger aurait pu hésiter, même après un troisième examen. La jeune fille déguisée perdit donc ce moment de triomphe passager que lui eût donné l'étonnement de son frère. Ce n'était pas la première fois, loin de là, que Neville la voyait ainsi. Mais il y avait longtemps qu'elle n'avait revêtu des habits d'homme. Les mères, aussi bien que les années, la séparaient du théâtre de sa première mascarade de ce genre, mais ils ne l'avaient jamais vue si bien travestie. Il remarqua, en la regardant de plus près, que la veste avait été si bien arrangée par quelque tailleur expert ou quelque costumier spécial, que les avantages naturels de la taille d'Héléna en étaient entièrement dissimulés, la petitesse des pieds et des mains pouvait seule trahir la supercherie. Ses premiers mots montrèrent bien qu'il se souvenait des déguisements d'autrefois, mais ils exprimaient aussi son étonnement de les voir se renouveler en des circonstances si peu joyeuses. « Ah, mon beau garçon, te voilà revenu !» s'écria-t-il d'un ton plus gai pourtant que pendant leur dernière conversation. « Sous quel nom figurais-tu, chérie, la dernière fois que nous nous sommes échappés pour aller à Colombo et où nous pensions si bien avoir réussi ?»
N'était-ce pas Joe Guilford ?
Oui, Joe Guilford. Tu étais Tom Guilford et nous venions d'apprendre que notre père était bien malade en Angleterre. Il fallait hâter notre départ. Ne t'en souviens-tu plus ? Mais dis-moi, en dépit de la méchanceté que tu as mise à me reconnaître du premier coup, comment suis-je arrangé ? Un autre que toi me reconnaîtrait-il facilement ?
« Non, sur ma parole, répondit-il, je ne crois pas que personne autre que moi puisse te reconnaître sans y regarder de bien plus près. Comme ta taille est bien dissimulée. Mais dis-moi deux choses. Depuis quand possèdes-tu ce costume que je n'ai jamais vu? Et s'il est neuf, comme je le crois, pourquoi en as-tu fait la dépense? J'espère que ce n'est pas seulement pour m'amuser. »
Non, frère, pas seulement pour t'amuser. Ce serait pourtant une très bonne raison, seule et ennuyée comme tu l'es. J'en ai besoin pour une chose que j'ai entreprise. Tu vois que je réponds d'abord à ta première question. Je dois aller quelque part où je ne puis paraître sous les habits de mon sexe et où je ne puis envoyer personne à ma place. Voilà pourquoi ton beau garçon, Joe Guilford, est revenu.
Héléna, ma chérie. Neville avait examiné attentivement son visage pendant qu'elle parlait, et sous l'air de gaieté qu'elle affectait, il venait de reconnaître une expression résolue, presque effrayante. Les regards d'Héléna étaient bien différents de ceux qui les avaient vus un instant auparavant. Ils n'étaient plus ni effarés ni effrayés, mais leur profondeur devenait presque menaçante. Héléna avertissait ainsi son compagnon fidèle qu'elle ne projetait pas une escapade joyeuse. Il sentait qu'elle allait accomplir une œuvre sérieuse, au contraire, en dépit des obstacles qui pourraient s'élever sur son chemin. « Héléna, ma chérie, répéta-t-il, tu es plus sage que moi et plus brave aussi. Non, ne m'arrête pas, je sais ce que je dis maintenant, si je ne le savais pas tout à l'heure. Je tremble de te voir sous ce costume, de quelque façon que tu te le sois procuré. Tu vas t'exposer à un danger pour moi. Pense un peu à quelle position tu me réduis. »
« Mais non, frère, je ne crois pas m'exposer à aucun danger. »
Le visage de la jeune fille, redevenu subitement gai, animé, brillant d'espoir et de volonté, prouvait bien qu'elle pensait à ce moment ce qu'elle disait. « Tu vas faire quelque chose qui peut te mettre en contact et en collision avec lui. Je le sais comme si tu me l'avais dit. Eh bien, n'y a-t-il pas de danger ?»
« Non, frère, je te répète que je ne le crois pas. Tu as raison cependant sur un point. Je vais lutter contre lui, mais cela ne m'exposera à aucun péril sérieux. Une visite ou deux dans un quartier désagréable, au milieu de gens repoussants, autant que je puis croire, et ce sera tout. Mais je le répète, comprends-tu dans quelle position tu me places? Supposons que cela dure depuis notre enfance et que je l'ai souffert. Doit-il en être toujours ainsi? Notre père a laissé deux enfants, une fille et un fils. Est-ce que la sœur doit sans cesse prendre le rôle d'homme et protéger le frère? Est-ce que le frère doit souffrir indéfiniment ce sacrifice ?
Je te dis non, Héléna. Je puis ne pas savoir aussi bien que toi ce que tu as rêvé pour me défendre, mais tu peux me l'enseigner.
Penses-tu que je manque de courage, quels que soient mes défauts ?
Tu essayais de réveiller la virilité en moi tout à l'heure.
Penses-tu y réussir en faisant ce que seul je devais faire, puisque je suis un homme ?
Tu es toutes les filles de la maison de notre père.
Veux-tu donc aussi en être tous les fils pour l'amour de moi, quand je suis vivant, quand je jouis de toute la plénitude de ma force et de ma santé ?
Non, je te remercie, cela ne doit pas être et cela ne sera pas.
Héléna regardait son frère avec orgueil pendant qu'il parlait. Elle ne s'arrêtait pas à son impatience et à son mécontentement trop visible. Chacun des mots du jeune homme devenait pour elle un gage d'espérance et d'avenir, cependant elle ne pouvait céder. Et cette réponse ajouta une nouvelle surprise à toutes les autres, si bien que son frère la regarda fixement.
« Arrête, mon cher Neville, dit-elle. Avant de te laisser ajouter un seul mot, j'ai à te faire un aveu qui te forcera peut-être à voir les choses sous un autre jour.
Non, tu n'es pas aussi protégé par moi que tu sembles le croire. Mais réponds d'abord, s'il te plaît, à une question que je vais te faire.
Crois-tu que je te dise toujours et entièrement la vérité ?
Oui, toujours, je n'en doute pas.
Que je ne fais jamais devant toi aucune réticence mentale ?
Je l'ai toujours cru, ma sœur, et j'ai toujours agi de la même façon envers toi.
Mais pourquoi cette question ?
Parce que j'ai quelque chose à te dire en ce moment qui pourra te surprendre et te porter à me croire coupable d'un subterfuge. Mais n'y a-t-il pas assez longtemps que nous sommes debout, et ne pourrais-tu pas offrir un siège à Judge Guilford dont tu as suffisamment admiré le costume ?
Tu crois, Neville, en me voyant ainsi déguisé, que je m'engage dans une entreprise menaçante pour lui ?
Je reconnais que c'est vrai.
Tu crois, de plus, que j'en arrive aux mesures extrêmes à son égard, surtout parce qu'il te menace de plus près, et que j'agis surtout et avant tout pour te protéger.
Tu n'as pas besoin de me répondre, je sais que tu penses ainsi.
Sur mon honneur, il n'en est rien. J'ai un autre motif, un motif personnel, plus fort même que mon désir de te sauver d'entre ses mains.
Un autre motif, un motif personnel, petite sœur.
La façon dont il accentua le mot « personnel » prouvait que la jeune fille avait eu raison de lui rappeler la franchise de leurs relations ordinaires.
« Oui, personnel, et tu y es étranger, tu ne peux en être responsable. »«
Quoi ? Que t'a-t-il donc fait ?»
Il y avait tout un monde de conjectures dans cette question pressante.
« Il a tué l'homme que j'aimais, et c'est non seulement toi, mais le monde entier, que je veux délivrer de ce monstre. »
« Héléna, tu m'as cru fou tout à l'heure. Est-ce toi qui es folle, présent ?»«
Folle ? Non. Pourquoi le serais-je ? Parce que je t'avoue cela, je n'ai aucune raison de cacher la vérité maintenant, surtout à toi. Oui, j'aimais Edwin Drood. Je l'aimais quand toi et lui étiez ennemis. Il ne le savait pas. Peut-être le sait-il maintenant là-bas, ah, bien plus loin que Ceylan. Je vais faire condamner son meurtrier sur ses propres paroles. J'ai tout dit, mais c'est assez pour prouver que je n'agis pas seulement dans ton intérêt et qu'il y a telle portion de ma tâche que je ne puis confier même aux frères que j'aime.
Tu aimais Edwin Drood, Héléna, et je le haïssais, dit Neville au bout d'un moment, se parlant plutôt à lui-même qu'il ne parlait à sa sœur. Il resta quelques minutes silencieux, puis il ajouta «
Qu'importe maintenant, il est mort et le résultat, c'est que ton cœur est brisé comme le mien. Mais je ne puis te permettre de courir un danger sans en demander au moins ma part. Que ta volonté soit faite pour le reste, mais quoi que tu fasses, où que tu ailles, laisse-moi t'accompagner.
Non !
Héléna parlait avec force et décision. Elle s'arrêta un instant avant de continuer.
Non, là où je vais, je n'irai pas seule.
Que cela te rassure, frère.
J'ai du moins le droit de demander qui t'accompagnera, n'est-ce pas ? Tu me diras bien cela ?
Je te dirai tout, Neville, du moins tout ce que j'ai le droit de te dire.
Je n'ai pas le droit de t'apprendre où je vais pour le moment.
Quant à mon compagnon, c'est Monsieur Tartare.
Monsieur Tartare ? Ah, je comprends. tu as répondu à plus d'une question par ce seul nom. C'est M. Tartare qui t'a procuré ces vêtements, j'en suis sûr. »
Bien deviné, mon chéri. C'est vraiment M. Tartare qui a fait le rôle de fournisseur de Sa Majesté et qui sera enchanté d'apprendre que Votre Altesse Royale en est satisfaite. »
Neville resta encore un moment silencieux, agitant nerveusement une de ses mains, comme s'il voulait exprimer ainsi une dernière objection que la bouche retenait encore. Puis il dit « Oui, j'aime M. Tartare comme je n'aime pas généralement les gens à première vue. Je crois que c'est un très digne garçon et que je puis te confier à lui. Peut-être bien que je l'aime d'autant plus que le même soleil tropical a brûlé ses joues et échauffe son sang. Mais, Helena, encore un mot. Tu viens de me parler d'un cœur enseveli dans le tombeau de celui que nous n'avons pas besoin de nommer. Tu es faite pour qu'on t'aime, tous ceux qui t'approchent le savent bien. Je t'en prie, si tu n'as plus d'amour à donner à ce nouvel ami, prends garde qu'il ne se trompe à la confiance que tu lui montres. Un mot, un regard peuvent lui faire croire que... Et alors ?
Aucun danger, frère. Le cœur de M. Tartare est déjà pris, et par une femme plus séduisante que ta moricaude de sœur, s'écria Helena, parlant rapidement pour rassurer son frère. Elle venait de laisser échapper des paroles qu'un instant après elle aurait donné tout au monde pour reprendre.
« Ah, il a un attachement. Tu connais la jeune fille alors, Helena ?»
Pourquoi faisait-il cette question si rapidement ? Pourquoi sa voix était-elle si animée, si pressante ? On eût dit que le bonheur de sa vie allait dépendre de la réponse de sa sœur. Pourquoi son regard était-il troublé et effrayé, comme Helena l'avait vu si souvent depuis leur première visite à Clusterham ? Pourquoi, si ce n'est parce que la nature, plus sage que ses plus habiles interprétateurs, a des moyens de faire pressentir le mal qui vient, moyens plus rapides que les télégraphes ou la lumière électrique ? Si les pressentiments existent, comme bien des gens le croient, Neville n'était-il pas un exemple frappant de leur puissance ? Sa sœur, sans l'avoir voulu, lui avait apporté cet avertissement, et Neville le saisissait au passage.
« Tu connais la jeune fille, alors, Helena ? » répéta-t-il.
« Moi ? Non, qu'ai-je dit ? Oh, quelle langue j'ai ! Aller dire précisément ce que je voulais taire et faire de la peine à ceux que j'aime le mieux ? Que nous fait M. Tartare et ses affaires de cœur ? » ?»«
Tu ne réponds là qu'à une partie de ma question, Helena. Tu connais la jeune fille. Qui est-ce ? Je veux le savoir. »
La tendre sœur hésita. Comment donner ce coup de grâce à une si chère espérance ? Comment détruire ce point d'appui d'une force déjà défaillante ? Sa voix était basse et tremblante quand elle répondit enfin
« C'est Mademoiselle Bud Rosa. »
« Ah !» C'était un véritable gémissement sortant du cœur de Neville Landless. Il retomba sur sa chaise, se couvrit la figure de ses deux mains comme pour faire disparaître à ses yeux le monde et tout ce qu'il renfermait. Sa voix était rauque, non pas de colère mais de douleur, quand au bout de quelques minutes, qui semblèrent des siècles à sa sœur, il dit
« Dis-moi tout, petite sœur, je crois que je pourrais l'entendre maintenant. Pourquoi le demander puisque je le sais déjà ? Il l'aime ? Tu es leur confidence à tous les deux, sans doute. L'aime-t-elle ?
Dieu ait pitié de nous deux, Neville. Peu importe comment je l'ai appris, je le sais. » Elle qui, jusqu'ici, ne savait pas même la signification du mot « amour », aime enfin, et M. Tartare possède ce qui a causé la mort d'Edwin Drood, et que j'aurais donné ma vie pour te voir posséder. Elle l'aime beaucoup et l'aimera toute sa vie. » La sœur s'était rapprochée de son frère en parlant, et ils étaient dans les bras l'un de l'autre quand elle acheva de parler, groupe charmant et trompeur qui semblait composé de deux frères jumeaux. Le nouveau gémissement qui sortit du cœur brisé de Neville, sans qu'il cherchât à le retenir, s'adoucit sur le sein de celle qu'aucun autre amour ne pouvait séparer de lui. Puis arriva le second acte, dans cet étrange drame de secousses cruelles et salutaires, dont la première avait eu lieu après la folle crise de Neville. Le mal connu n'est rien auprès du mal supposé.
Je ne pourrai jamais le supporter, s'écrit-on, quand le fouet descend et avant qu'il n'ait touché la chair frémissante. Bien des gens ont répété cette phrase et, une fois le moment arrivé, ont prouvé qu'ils pouvaient supporter les tortures les plus cruelles. David semblait gémir comme un être sans espérance, tandis que la vie de l'enfant, qui avait tant coûté à lui et à son peuple, menaçait de s'éteindre, on pouvait s'attendre à ce qu'il s'anéantît dans le désespoir, oubliant toutes les bénédictions qui lui restaient, quand le serviteur vint lui apprendre que tout était fini. Il se leva alors, se saignit les reins, lava son visage, enleva les cendres qui étaient tombées de sa tête et redevint un homme. Aussi Neville Landless, bien éloigné de ressembler au roi d'Israël par sa position sociale, mais semblable à lui par sa nature, qui supportait mieux un mal connu qu'incertain, céda-t-il un moment à l'étreinte sympathique de sa sœur, puis s'en dégagea. Il détacha doucement les bras de la jeune fille, se leva, se redressa comme pour rejeter de ses épaules un fardeau porté trop longtemps, et dit d'une voix ferme « Dieu merci, c'est fini !» Elle n'aurait jamais pu m'appartenir après ce qui est arrivé, et cependant, j'étais assez faible pour espérer contre toute espérance. Qu'elle aime et qu'elle épouse un brave garçon, et je vivrai pour lui prouver, et à toi aussi, ma sœur, qu'un homme qui comprend le vrai sens de ce mot peut perdre l'amour, souffrir l'injustice, arriver presque au désespoir, et cependant s'élever au-dessus de tant de maux et faire l'œuvre de sa vie. Ne crois pas que je veuille me vanter, ma chérie. J'aurai des heures sombres et beaucoup. Tu seras forcée d'oublier tes propres douleurs pour m'aider à supporter les miennes. Mais je tâcherai de te fatiguer le moins possible. Et qui sait si un jour ne viendra pas où je pourrai même te soutenir à mon tour.
Mon brave frère, mon noble Neville, s'écria Helena avec un cri de soulagement. Me soutenir ? Quoi ? Tu vaux déjà 50 fois mieux que moi. Tu n'es plus seulement mon frère, tu es mon héros. Embrasse-moi pour me souhaiter une bonne nuit. Promets-moi de croire en moi et de me permettre d'agir encore un peu à ma guise avant de me faire voir quel tyran tu vas devenir, car il faut que Joe Guilford s'en aille maintenant pour se changer de nouveau en ton petit pruneau de sœur, et puis qu'elle mette ce petit pruneau dans son panier, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici un lit. Je voudrais bien que ce fût un hamac se balançant sous les palmiers, là-bas, dans notre cour.